Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire Portrait Inspirant. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle. Depuis 5 ans maintenant, l'association Résonance, à l'origine du projet, parcourt le territoire à la rencontre des familles touchées par la déficience visuelle et leur propose de participer à la réalisation de cette émission radio. Et nous voilà à l'orée de cette 6e saison. Et son but sera de vous proposer des récits de vie de personnes touchées par la déficience visuelle afin de sensibiliser toujours et encore plus, créer un pont entre toutes et tous et disposer d'un outil qui porte la voix de personnes ayant bien des choses à nous raconter, voire à revendiquer. Sachez que notre porte reste ouverte à qui aimerait s'emparer de ce porte-voix et participer à ce projet collectif. Alors n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'imaginoire@lilo.org, en nous retrouvant sur Facebook ou sur Instagram à l'imaginoire-8radio ou en contactant votre radio qui nous passera le message. C'était pour les présentations et au menu de l'émission du jour, nous vous proposons une rencontre avec...
Alors, je m'appelle Laurie, j'ai 31 ans, je suis déficiente visuelle depuis la naissance. Je suis née avec mon handicap et j'ai grandi avec. Alors, l'ambiance familiale, c'était compliqué parce que j'ai grandi dans un environnement où mes parents s'entendaient pas forcément très bien. J'ai par contre eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussée à vivre avec mon handicap, qui ont toujours fait le maximum pour que je puisse me débrouiller toute seule par moi-même. Mes frères et sœurs aussi d'ailleurs. J'habitais dans la campagne du nord de la France, entre Lille et Douai. Vitry-en-Artois, c'est pas bien grand, mais c'est pas bien petit non plus. J'habitais un peu dans une cité où tout le monde se connaissait, donc c'est vrai que j'étais un peu la petite protégée parce que mon frère avait beaucoup de connaissances, ce qui m'a permis de faire pas mal de conneries, disons. J'étais pas la plus sage du coin, mais bon. Avec mes frères et sœurs, on a un grand écart d'âge. Avec ma sœur, j'ai 15 ans d'écart et avec mon frère, j'ai 10 ans d'écart. Je parlais plus ou moins bien du coup avec les petits frères et petites sœurs des autres. Il y a eu les hauts et les bas, hein, parce qu'il y en a autant qui profitaient de mon handicap pour me faire des sales coups comme des enfants, quoi. Des enfants normaux, j'ai envie de dire. Et puis il y en a d'autres qui m'ont pris vraiment en affection, avec qui j'ai encore de très bons contacts. Grâce à qui j'ai pu vivre une enfance des plus ordinaires selon moi. Alors en scolarité, j'ai fait une maternelle en intégration, comme on disait à l'époque. Ensuite, en CP, je suis partie à l'URDV de Lille en internat. Ça a été très 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 compliqué au début. Jusqu'en CE1, c'était la crise le lundi matin quand je prenais le taxi pour partir. C'était la crise de la crise. Je sais pas comment ils ont fait pour supporter ça. Vraiment. J'ai toujours été bonne élève. J'ai eu la chance d'être scolarisée à l'époque où il y avait des moyens au niveau des éducateurs de l'internat, où les éducateurs étaient formés au handicap, où même les éducateurs essayaient de nous faire faire le maximum de choses. Ça passait par des ateliers travaux manuels, ça passait par des sorties ciné, ça passait par des sorties culturelles, au musée, en forêt le mercredi après-midi, des balades à la citadelle de Lille, des ateliers cuisine, j'en passais des meilleurs. Et je me souviens en CM1, nos instits, dont je me souviendrai toute ma vie, et sincèrement, c'est des gens que j'oublierai vraiment jamais. Ils ont organisé une semaine à la Villette à Paris. On faisait des ateliers et l'après-midi, on faisait un peu du tourisme. Et là, on fonctionnait par binôme. Donc une personne qui voyait assez bien et une personne qui voyait beaucoup moins. J'avais trouvé l'initiative super plutôt que de tous nous former à l'arrache, à la canne blanche, en mode d'aller en avoir Guingamp. Et c'était quelque chose qui... pour moi, ouais, avait été une super expérience, quoi. J'avais fait promettre à ma sœur de s'occuper de moi s'il se passait quoi que ce soit. Parce que mon père était pas en capacité de le faire. Ma mère est décédée en février 2002. Ma sœur m'a récupérée. Donc en plus, elle venait d'avoir un enfant. Enfin, son aîné avait même pas un an quand ma mère est décédée. Donc voilà, jeune mariée, premier enfant, puis la sœur qui débarque. Pas très simple. Et puis en 2003, donc, mon beau-frère a été muté dans le sud. Qui dit mutation dit déménagement, qui dit déménagement dit perte de repères. Donc je suis partie de l'ERDV de Loos pour aller à l'Oréa de Villeurbanne, à la cité scolaire René Pelet. Ça n'a pas été simple. Ça m'a complètement chamboulée. Et du coup, ça a fait que les relations avec ma sœur se sont bien dégradées. Année collège-lycée compliquée, donc réadaptation, se faire de nouveaux copains. Là, pareil, j'ai fait des magnifiques rencontres. Scolairement, par contre, mes résultats ont commencé à se dégrader parce que j'en avais rien à faire. J'avais vraiment pas la tête à étudier, donc j'ai survécu, on va dire, au niveau des notes. Je restais beaucoup sur mes acquis, mais ça passait. Donc après avoir obtenu mon brevet des collèges, cette année-là, j'ai développé un intérêt pour les langues étrangères. Et j'ai été pendant quelques années, 5-6 ans, déterminée à devenir interprète. Seconde générale, échec, donc je suis repartie en BEP secrétariat à l'Oréa. J'ai détesté. Je me sentais pas entendue, pas vraiment soutenue. Et donc ma scolarité s'en est ressentie, hein, forcément. Heureusement que quand je suis rentrée en bac pro, ils ont ouvert l'option secrétariat, option européenne. Donc avec des cours de secrétariat en anglais. En 2007, il y a un des éducateurs de la cité scolaire qui dit « Eh les gars, il y a 10 ans en arrière, on avait fait un premier voyage au Mexique, on va refaire l'expérience. Il y a des ateliers qui existent, on va monter un truc et on va essayer de faire ça en collaboration avec des musiciens, des circassiens, danseurs mexicains. » Au début, moi, c'était quelque chose qui me parlait, ça m'intéressait. Mais sans plus. Et donc quand j'ai commencé à en parler à ma famille, donc ma sœur déjà m'a dit non, cash, sans m'expliquer pourquoi. Alors qu'en fait, à la base, c'était en partie parce qu'elle n'avait pas les moyens. L'éducateur, du coup, a tout fait auprès de mon père pour que je puisse partir. Et j'ai pu partir. Et là, autre révélation dans ma tête. Je suis arrivée là-bas. C'était comme si j'étais chez moi, en fait. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'étais comme un poisson dans l'eau. En plus, j'avais eu donc des cours d'espagnol. Là, pareil, j'avais toujours un très bon niveau. Ce qui m'a permis, du coup, de me faire des contacts et de garder des contacts avec des musiciens, danseurs et circassiens. Contacts que j'ai plus ou moins encore aujourd'hui, dont je suis très fière.
Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoir, portrait inspirant, en compagnie de Laurie. Retour à l'entretien.
Comme j'allais pas bien, ça m'a vraiment permis de souffler. Donc je pense que ça aussi, finalement, c'est rentré dans la balance. Ça m'a permis vraiment de souffler, de respirer, de me dire, allez, il y a autre chose. Il y a autre chose que tes embrouilles personnelles, il y a autre chose que ta vie scolaire qui te convient pas. Si tu te donnes les moyens, tu pourras te bouger le cul pour y retourner, en fait. Donc j'ai passé mon bac en 2011, je l'ai obtenu. Et j'ai été prise en licence langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, à la fac. Autant te dire que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai sauté dans tous les sens, j'étais en cours d'anglais, je m'en rappelle. Enfin, j'allais faire quelque chose que j'aimais, quelque chose qui me parlait, les langues étrangères. Mais je voulais pas qu'on décide pour moi, parce que pour moi, on avait trop décidé pour moi. Août 2011, me voilà partie avec mes valises. Ça n'a pas été simple au début, parce que j'avais pas 20 ans. Donc j'avais pas encore mes allocations. Pour autant, il fallait que je vive et j'avais 100 balles sur un compte. Donc heureusement que j'avais des contacts parce que j'aurais pu être à la rue, mais je n'ai pas été à la rue. De par ma situation, il y a une éducatrice qui a décidé de... Enfin deux en fait, qui ont décidé de se bouger le cul pour moi et qui ont réussi à faire en sorte que je réussisse à avoir un logement CROUS. En novembre, donc j'ai mon logement CROUS, mais j'avais toujours pas mes allocations. Donc en gros, pendant 2-3 mois, tant que j'ai mes allocations, je payais pas mon logement CROUS. J'étais déjà endettée, plus ou moins. Quand les allocations sont enfin tombées et que j'ai touché les rappels, j'ai remboursé ma dette. Pareil, époque qui aurait pu être compliquée, mais en fait, je l'ai pas non plus mal vécue. Parce que je savais ce que c'était déjà la vie, mais là encore plus. Donc première année de fac qui se passe assez bien. Et c'est en deuxième année que les choses ont commencé à basculer. La première année, en tout cas, la mission handicap avait le droit de regard sur les sujets d'examen et sur qui était DM, donc devoir à rendre. En fait, ils ont estimé que ça pouvait plus continuer comme ça parce que les sujets pouvaient fuiter. Donc du coup, en deuxième année, la mission handicap ne pouvant pas vérifier, ne pouvant pas s'assurer que les sujets étaient bien transcrits. Premier semestre, sur tous mes examens, il y en a un que j'ai pas pu passer parce que j'avais demandé des documents pas scannés. Et on m'a donné un document scanné. J'avais quand même un secrétaire, donc le secrétaire qui ne maîtrisait absolument pas les langues, qui a fait de son mieux pour me lire le sujet, pour me dicter les questions, me lire les textes. J'ai fait avec les moyens du bord, mais j'ai commencé à alerter en disant que ça pouvait pas se passer comme ça. Deuxième semestre, là c'est pas un, mais pratiquement tous mes examens que j'ai pas pu passer. Donc là, à un moment donné, sachant que pour d'autres événements, j'avais fait... Je commençais à vraiment me sentir pas bien, pour d'autres raisons. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je leur ai dit, mais en fait, c'est hors de question que je repasse sur mon temps libre pour pouvoir repasser un examen. Les gars, je suis désolée, mais à un moment donné, on va arrêter de se prendre pour des cons. Donc allez vous faire foutre, en fait. Je vois pas pourquoi je travaillerai pas comme les autres. Je suis comme les autres, avec ma différence. Mais je suis comme les autres, en fait. Donc j'ai droit à une scolarité comme les autres. J'ai pas à me casser encore plus le cul que les autres, déjà que je me casse le cul pour vivre. Donc du coup, comme j'ai pas pu, de mon propre chef, passer mes examens, forcément défaillante. Donc j'ai validé qu'un semestre sur les deux. Et j'ai lâché l'affaire en fait.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, portrait inspirant, en compagnie aujourd'hui de Laurie. On s'en était arrêté à son parcours scolaire semé d'embûches. Est-ce que son entrée dans la vie professionnelle ressemblera à un chemin printanier bordé de fleurs? C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Du coup, après, au niveau professionnel, quelques années d'errance. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais plus faire. En 2019, j'ai rencontré une personne formidable qui cherchait à faire adopter le chat de sa maman. Et donc, on s'est croisés grâce au chat. Elle venait de monter sa boîte et elle avait besoin de quelqu'un pour faire un peu des tâches de secrétariat. Donc elle m'a proposé le poste et sur le coup je me suis dit bon, ça peut être une super occasion. En plus elle a l'air vachement ouverte au niveau du handicap, elle a vraiment cherché à faire les choses correctement. Sauf qu'en fait il y avait beau y avoir la petite voix qui me disait ouais mais du secrétariat t'es sûre de toi. J'arrivais réussi à me convaincre que je pouvais le faire en fait. Je me suis rendu compte que non. D'autant plus que la santé de mon père commençait à se dégrader en même temps que j'ai commencé mon poste. J'ai essayé, et puis mon père est décédé en décembre 2019, et il est venu de l'espace, burn-out. J'ai pas compris pourquoi sur le moment, parce que j'avais pas une relation de père à fille, de fille à père, en fait, avec ses enfants. Il a jamais été... La relation était plus matérialiste que sentimentale, on va dire. Attention, je suis pas en train de dire que son décès ne m'a pas touchée. Mais je comprenais pas pourquoi ça me touchait autant, dans la mesure où j'étais pas proche de lui, ou il savait les grandes lignes de ma vie perso, mais il a même jamais su que j'étais tombée plus bas que terre, en fait. Je suis remontée pour son enterrement, donc j'ai dû remonter dans le nord. Et en fait, après, ben, je devais reprendre le boulot. Et là, en fait, j'ai commencé à me taper des insomnies, à plus réussir à manger, crise d'angoisse. Mais je comprenais vraiment pas pourquoi. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis dit, mais merde, en fait, c'est juste la vie qui est en train de te montrer que t'es pas sur le bon chemin. Donc, j'ai démissionné de mon poste. Je pense avoir déçu quelqu'un qui, pour moi, est devenu une amie. Ça a pas été simple, mais valait mieux que ça se passe comme ça. Et là, par contre, je me suis dit, ben la fille, faudra peut-être que tu te rendes service, en fait, et que tu fasses quelque chose pour toi, parce qu'il y a des choses dont tu n'as plus besoin. J'avais entendu parler de l'hypnose, donc je me suis dit, allez, lance-toi. Va commencer ta vraie thérapie. Vas-y, parce que là, tu peux pas continuer comme ça. Et donc, je suis allée voir un hypnothérapeute. J'ai fait ma première séance, et il m'a mis en face des choses. Donc, j'avais pas fait notamment le deuil de ma mère. Mais j'étais sûre de l'avoir fait, j'étais vraiment... Ouais, j'avais avancé par rapport à ça, mais en fait, que nenni, je n'avais rien avancé du tout. Donc, ma première séance, révélation. L'hypnose, non seulement c'est magique, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me formerais pas à ça? J'avais en tête que pour l'hypnose, il y avait besoin du regard, il y avait besoin des yeux, il y avait besoin d'y voir un minimum. Et en fait, ben non. Et mon thérapeute m'a même dit, mais moi, des fois, je ferme les yeux. Enfin, je regarde même pas forcément le patient, des fois. Et pourtant, ça fonctionne. Donc, je cherche un peu des écoles qui forment à l'hypnose. Et je vais en voir une première à Lyon. Je citerai pas le nom parce que j'ai été à deux doigts de leur faire un procès. Donc je rentre en contact avec eux, je leur explique mon cas. Et la secrétaire me dit, écoutez, on fait des soirées une fois par mois. Venez dans nos locaux, comme ça vous pourrez rencontrer la formatrice. Normalement, votre handicap ne devrait pas poser de soucis. Et en septembre, me dit, allez, je saute le pas, je m'inscris. Je reprécise au secrétariat que je suis une personne porteuse de handicap visuel, que faudra les cours en PDF ou en format Word, machin. Oui, pas de problème. J'arrive le premier jour. Donc on fait le tour de table où on se présente chacun. Et après, la formatrice nous dit, on va faire une petite pause. Donc moi, je sors, fume ma clope, commence à discuter. Et là, la formatrice qui me dit, est-ce que je peux te voir deux secondes en privé? Oui, bien sûr, pas de souci. Je me suis dit, elle va vouloir me poser deux, trois questions. Et là, j'ai sauté 10 étages. Elle me dit, écoute, je viens d'avoir la direction en ligne. Et en fait, je suis désolée, mais on peut pas te former. Tu comprends, je pourrais pas forcément prendre le temps de venir vers toi, de m'assurer que tu comprennes bien les choses, de te décrire, parce que vous êtes nombreux, donc... Donc là, je me suis sentie humiliée comme Jaja. Parce que du coup, tous les autres étaient rentrés, que moi, j'ai dû ranger mon ordi, ranger mon matériel et prendre la porte, en fait. Et tout le monde me regardait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Je vais encore une fois pas pouvoir me former. Ça va se passer comment? Je me dis, allez, c'est pas grave. Rentre chez toi. Fais appel au défenseur des droits, parce que là, t'as été victime de discrimination. Et donc, j'ai monté un dossier et à mon grand désarroi, il a encore fallu que je leur coure après. Donc, à un moment donné, pareil, je me suis dit, allez, c'est bon, lâche l'affaire. Lâche l'affaire parce que tu seras soutenue, mais dans 10 ans, en fait. Débrouille-toi pour essayer de te former ailleurs, en fait. Je suis allée me former, du coup, à Avignon. Suite à l'enterrement de mon père, avec ma sœur, on a commencé à se reparler et à retrouver une relation de sœur à sœur. Et donc du coup, j'appelle ma sœur, je lui dis « Ouais, écoute, je vais me former à Avignon. Est-ce que ça te dérange de venir me récupérer à la gare et de m'amener à tel endroit où, parce que je vais prendre une chambre d'hôtel pour éviter de t'embêter trop à m'amener à droite à gauche. » Ça a vraiment... fait bizarre parce que Avignon, ça a été le lieu entre guillemets de la vraie discorde, et bizarrement ça a été le lieu aussi qui a vraiment permis de reconstruire quelque chose avec elle.
Parcours de vie, pour le dire gentiment, chemin cabossé, mais on connaît toutes et tous plus ou moins ça. Mais pour les personnes porteuses d'un handicap, vous y aviez déjà réfléchi? Vous êtes déjà mis à leur place? C'est une des raisons de l'existence de cette émission. Sensibiliser toujours et encore. Faire avancer notre compréhension. Faire avancer notre vivre ensemble. Allez, on retrouve une dernière fois Laurie. Vous êtes bien à l'écoute de l'imaginoire, portrait inspirant. Retour à l'entretien.
Des fois, la vie fait bien les choses. On m'avait orienté vers un premier centre équestre à Vienne en me disant « Mais eux, ils ont le label, comme quoi ils prennent des gens handicapés. Donc franchement, va là-bas, je donnerai pas le nom. » Donc j'y vais le jeudi soir et là, la nana me regarde, elle me fait « Ça me fait plaisir de te voir, mais qu'est-ce que tu fais là en fait ?» Je la regarde, je lui fais « Bah en fait, vous m'avez demandé de venir pour faire un essai. » « Ah non, mais en fait... ça va pas être possible parce que j'ai déjà bouclé tous mes cours et je peux pas te prendre. » Donc là, je me dis, allez, encore une claque dans la gueule. Et puis, il y a une amie qui est parfaitement valide qui me dit, j'ai réussi à avoir deux places à l'autre centre équestre de Vienne. Je voulais te proposer de venir. Et là, je lui réponds quoi? Je lui fais, écoute, c'est sympa, mais bon, si c'est pour encore me faire entendre, je suis pas sûre de pouvoir monter à cheval, merci, mais non, merci. Donc elle appelle et là, la magie de l'univers, des fois. Elle tombe sur une monitrice, Amélie, à qui je dois énormément, qui lui dit « Moi, je veux bien faire l'essai, je vous promets rien, mais je connais un peu le monde du handicap visuel, puisque j'ai des membres de ma famille qui sont aveugles, donc j'ai jamais donné de cours d'équitation à une personne porteuse de handicap visuel, mais on peut se lancer le challenge. » Et donc, j'y suis allée, et pendant un semestre, elle m'a pris en cours particulier. Elle m'a fait reprendre toutes les bases parce que j'étais déjà vaguement montée à cheval, mais j'avais un peu tout perdu. Arrivée au mois de décembre, elle me dit « Vas-y, dans deux semaines, il y a le challenge en saut d'obstacle. Bon, tu fais que les barres au sol, mais on le fait !» Et me voilà à sauter mon premier obstacle. Donc, il y avait une cavalière devant moi qui était à cheval et que je suivais parce que de par mon reste visuel, j'arrive à suivre. Donc, on avait jugé que c'était mieux comme ça. Et donc on commence le parcours barre au sol et là Pauline elle me dit bon on arrive à l'obstacle on fait quoi? Je dis on y va. Et donc j'avais jamais vraiment sauté de ma vie et j'ai sauté l'obstacle et j'ai dit mais en fait ça c'est pour moi. Et donc voilà, donc aujourd'hui ça fait 4 ans que je monte à cheval, bientôt 5, et j'ai passé les 3 premiers galops que j'ai validés. C'est ma bouée de sauvetage, c'est mon moment à moi. C'est vraiment quelque chose qui me permet de lâcher prise sur mon quotidien, qui me permet de souffler. Je suis vraiment contente de mes progrès et de me dire que malgré que j'y vois pas grand-chose, je saute 80 cm. C'est pas mal, c'est même très bien. Et je suis vraiment fière de moi. Et je voulais conclure sur le fait que malgré que la vie elle nous confronte un peu comme tout le monde, elle nous met des barrières, des obstacles. Mais c'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on peut pas franchir les obstacles. Même si on les franchit pas de la même manière que les autres, y a pas de raison qu'on les franchisse pas.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Laurie et Sébastien. Avec le témoignage de Laurie, il n'y avait malheureusement pas la place pour une chronique de la peau proposée par Valérie. Mais rassurez-vous, elle reviendra en fanfare dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une chronique inédite de La Peau, sortie en juillet, en passant par nos réseaux sociaux ou via notre page YouTube. Cherchez et trouvez-nous via l'Imaginoir, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. Alors, comme expliqué en début d'émission, l'Imaginoir est une émission outil en forme de porte-voix pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous fassions ensemble. Par mail, l'imaginoir@lilo.org, via les réseaux sociaux ou en contactant votre radio qui nous passera le message. Et même si vous n'avez pas fait de radio, n'ayez pas peur, c'est rigolo et nous trouverons une solution afin que votre message passe. J'en profite pour m'excuser pour ma voix du jour. J'ai passé quelques jours en automne en Bretagne cet été. J'en suis revenu avec une petite bronchite. Mais ça ira mieux la prochaine fois. L'Imaginoir est une émission produite par l'association Résonance et soutenue par la CAF Drôme. A bientôt pour une nouvelle émission.